Alors, bienvenue à toutes et à tous dans les Faramineux de ce vendredi. Donc, avec moi en studio, j'ai Thibaut de Corta, qui est auteur, compositeur, interprète. Et là, son statut va être d'être chroniqueur. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Son statut va être d'être chroniqueur pour nous présenter des bandes dessinées pour lesquelles il a eu un gros coup de cœur.
Ah oui, absolument, oui.
Mais dans la première partie de cette émission, on va parler du duo folk Pièce sur Pièce, qui est composé de Stéphanie Blanchette et de Olivier Brousseau. Ils ont lancé leur EP2 et pour nous en parler, eh bien on va le faire avec Olivier Brousseau dans un instant. Pour commencer, on part avec leur chanson qui s'appelle Étonne-toi pas, du duo Pièce sur Pièce.
Étonne-toi pas, mon pauvre amour. Pendant longtemps, je me suis brûlée à courir les lucioles. Du matin au soir, mon reflet éteint dans le miroir. Je me suis fait de belles promesses, des histoires de petites princesses. Depuis que je suis dans ton lit, je préfère les braises du quotidien aux grands frissons des planches et de danser des folles nuits blanches. Je me laisse aimer, tu te mets à rire. Je te ferme les yeux, tu me laisses vieillir. Étonne-toi pas, mon pauvre amour, si mon passé est accroché sur la corde dans ta cour. Inquiète-toi pas, mon pauvre chéri, j'ai tout lavé, j'ai tout blanchi. Comment j'aurais pu prévoir que j'allais te rencontrer, que je passerais mes jours avec toi, c'est arrivé, j'en reviens juste pas. Parfois je me demande comment j'ai pu douter que j'allais autant t'aimer. Maintenant auprès de ton feu, j'ai plus besoin d'effets spéciaux. Dans tes silences j'entends, je t'aime, je t'ai habitué. J'ai plus de problème à comprendre tes mots de sourd muet, ces fameux signes que je saisissais jamais. Étonne-toi pas, mon pauvre amour, si mon passé est accroché sur la corde dans ta cour. Inquiète-toi pas, mon pauvre chéri, j'ai tout lavé, j'ai tout blanchi. Sur la corde dans ta cour, inquiète-toi pas, mon pauvre chéri, j'ai tout lavé, j'ai tout blanchi.
Voilà, on vient d'entendre « Étonne-toi pas » du duo Pièce sur Pièce. Et là, on a la moitié masculine du duo, Olivier Brousseau. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va bien, vous ?
Ben ça, écoute, ça va bien. On est content d'entendre cette chanson. C'est celle qui est en vidéo,
rotation.
Hein, en rotation. C'est celle
oui,
qu'on
c'est
entend.
Ça, avec laquelle on a tourné un vidéoclip
voilà.
Récemment.
Alors, j'en ai choisi deux autres parce que j'ai appris que toi, tu travaillais sur la musique et
oui.
Que vous receviez des textes.
Exactement. Ben moi, en fait, je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai déjà 5 albums, en fait, à mon actif dans ma carrière solo. Mais dans le cadre du projet Pièce sur Pièce, le défi, c'était d'aller ailleurs de ce que moi je fais habituellement. Donc,
ah,
on
oui.
a. Et Stéphanie était la chanteuse du groupe Jaune. Donc, elle aussi, on voulait l'amener ailleurs. Donc, on a fait appel à différents auteurs et on a pris des textes qui nous ont été fournis par ces auteurs-là. Puis moi, je me suis occupé de faire la création musicale, assurer comme une direction puis une unité là, dans la facture musicale du projet.
Alors, avant de parler de votre rencontre, il faut que je te dise tout de suite que les deux autres chansons que j'ai choisies,
oui.
j'avais le droit, c'est pièce B et chant de tir.
Oh, super!
Voilà.
Super.
J'ai beaucoup aimé aussi la musique et les textes. Alors, pourquoi seulement... Oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose?
Non, je trouvais ça bien intéressant de savoir que vous allez faire tourner là, ces pièces-là là, sur vos ondes.
Là, ça va marcher.
Super.
Après.
Okay.
Comment ça s'est décidé, ce duo?
Ben, en fait, c'est ça. C'est que, pour mettre en contexte, moi, comme je disais, j'ai mené ma carrière d'auteur, compositeur, interprète. Stéphanie, de son côté, était avec le groupe Jaune. On
oui.
s'est connus, nous, au travers de tout ça, dans notre parcours professionnel. Au fil du temps, Stéphanie est venue chanter comme choriste dans mon projet solo. Elle est venue chanter sur deux de mes albums. Elle est devenue choriste sur scène avec moi. Nous, on est devenus au fil du temps un couple. On est des amis de longue date qui sommes devenus un couple.
C'est une jolie histoire!
Eh oui, et puis donc ça faisait un bout de temps que les amis nous demandaient « Qu'est-ce que vous attendez pour faire un projet commun? » Parce que on se retrouvait à chanter ensemble seulement dans les moments plus informels, dans les soirées. Oui, c'est ça. Après un souper, on sortait une guitare et on chantait ensemble.
Au moment où vous aviez bu?
Ben, ça pouvait aussi, hein? Dans les moments de festivité. Donc là, les gens nous demandaient qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose ensemble comme projet, mais comme on avait chacun nos... Parce que moi, je suis aussi dans des projets de musique traditionnelle, entre autres le groupe Musique à Bouche, puis le trio des cantons, Marchand de mémoire. Donc, j'avais plus ou moins de temps, mais... Pendant la période du confinement, disons, on a été... on a eu beaucoup plus de temps ensemble à la maison. Donc, on a monté plein de petites capsules vidéo où on présentait des chansons sous nos noms, Olivier Brousseau et Stéphanie Blanchette. Puis, ça a créé un genre d'engouement sur le web. Les gens nous ont encouragés à poursuivre la démarche. Puis, de fil en aiguille, ben on est devenu... On s'est cherché un nom de groupe, puis avec un remue-ménage avec des amis dans une soirée est sorti le nom de Pièce sur Pièce qu'on aimait bien. Puis c'est ça. Donc, Pièce sur Pièce est né comme ça. Puis, au fil du temps, on a fait appel à différents auteurs. On a beaucoup d'amis là-dedans qui nous ont fourni des textes. Puis, c'est parti d'une nuit, entre autres, où on était à Saint-Venant-de-Paquette chez un de nos amis, qui est l'auteur Jean-François Letourneau.
Oui, j'ai vu qu'il avait écrit, oui.
Oui, puis lui, il nous incitait beaucoup, lui, à faire ce projet-là. Puis on lui disait, dans le fond, ça nous prendrait des textes. Puis dans cette nuit-là, lui, il a passé une nuit blanche. Donc, il en a profité pour écrire deux textes. Le lendemain, on avait ça dans nos boîtes courriel. Puis ça a été l'amorce du projet. Ça a été le point de départ.
D'ailleurs, ce qu'on vient d'entendre, étonne-toi pas, c'est de lui.
Oui, c'est un texte de Jean-François Letourneau. Ah. Qui est aussi un auteur, bon, il vient de sortir un roman dernièrement qui s'appelle Le territoire sauvage de l'âme, qui reçoit des très belles critiques et qui s'en va en réimpression d'ailleurs, qui se retrouve dans plusieurs suggestions, lectures dans différents médias écrits, entre autres. Et puis, c'est ça, Jean-François, une super plume. Puis comme on est des amis de longue date, on a collaboré ensemble sur certains de mes albums, dans mes textes à moi. Mais là, comme il nous connaît très bien, et moi et Stéphanie, il connaît un peu nos goûts, nos intérêts, nos préoccupations, tout ça. Puis on aime sensiblement le même genre de musique. Donc c'était facile pour lui d'écrire en se mettant dans notre peau, puis de nous suggérer des textes qu'on retravaillait avec lui par la suite, une fois que la musique était faite. Puis on faisait un travail, là, un genre de work in progress. Là, comme on...
Mais vous êtes de quelle région, vous autres?
Nous, on est de l'Estrie.
Estrie, OK.
Oui, donc nous, on habite à Sherbrooke. Puis à peu près, je vous dirais que tous les auteurs avec qui on a fait affaire sont pas mal en Estrie.
OK. Moi, j'aurais un commentaire à faire. J'ai beaucoup aimé les paroles. Mais je suis étonné. Là, ce qu'on dit, donc, c'est qu'il y a une voix féminine et une voix masculine.
C'est ça.
Oui, c'est
mais
ça.
Mais moi, c'est donc... drôle. En écoutant, je pensais que c'était deux hommes qui chantaient.
Que c'était deux hommes?
Oui, c'est curieux.
Ah oui? Ben, tu vas entendre dans les autres chansons, parce qu'on entend bien que c'est une femme qui chante.
Comme là, dans la première chanson, c'est la voix qui était la plus haute, c'était la chanteuse, alors.
Oui, c'est ça.
OK, elle a quand même une voix, c'est particulier quand même.
Ben oui, elle a son grain de voix, ouais. Sa personnalité vocale, puis elle est capable, elle a un beau grain de voix dans les registres un peu plus bas aussi.
OK, ouais.
Donc, on réussit, le travail, c'est de réussir à marier ça pour que les deux voix ne deviennent qu'une.
Ça sonnait bien. C'était juste un étonnement, là, mais sinon, ça ne touchait pas la qualité du chant. C'était très, très, très bien.
Ah, ben excellent, excellent. Mais oui, c'est ça, c'est Stéphanie qui est l'interprète principale, en fait. Puis moi, je fais pas mal les arrangements musicaux et vocaux, puis j'accote là, avec les harmonies vocales, là.
Alors, quand on va pas tarder à faire la pause, on va écouter pièce B, un deuxième morceau, puis là, tu vas entendre, puis tu nous diras après si tu l'as entendu, la voix féminine.
Ben
et
oui.
Puis on va d'abord écouter la musique, et puis après, tu répondras à la question suivante. Quand on est auteur, compositeur, interprète, on arrive facilement à chanter les paroles des autres? Question, okay. On s'en parle tout de suite. On s'en parle tout de suite, alors on écoute pièce B.
Parfait.
Tu me donnes le goût de ma guitare, tu me donnes envie de chanter. Avec toi, c'est toujours l'été, puis je veux sortir de mon hangar.
Tu me donnes envie de veiller tard, tu me donnes envie de danser. Avec toi, c'est toujours l'été, viens t'en donc me rejoindre dehors. Là, ça y est, c'est pour de vrai, depuis le temps qu'on attendait. On se lance la tête première, nous deux, c'est pas d'hier. Écrire des chansons, comme on construit des maisons, morceau par morceau. Do, sol, fa, mi, ré, do. Ça y est, c'est pour de vrai, depuis le temps qu'on attendait. On se lance la tête première, nous deux, c'est pas d'hier. Écrire des chansons, comme on construit des maisons, morceau par morceau. Do, sol, fa, mi, ré, do.
D'écouter pièce B. Alors, Olivier, finalement, oui. Les paroles des autres, est-ce que elles, Elles sont parfaites pour toi? Est-ce que c'est parce que c'est des personnes que tu connais déjà ou...
En fait, ça prend différentes choses. C'est sûr que le fait que moi, j'ai l'habitude d'écrire mes textes, puis souvent, je fais les musiques justement à partir des textes, puis des fois, je peux me rendre compte qu'en cours de route, c'est pas que c'est pas bien écrit ou que le choix des mots est pas bon, c'est juste que ça cadre moins au niveau prosodique avec ce que moi, j'ai travaillé comme musique. Donc, il faut que je travaille avec des auteurs qui ont une certaine flexibilité, une certaine ouverture et qui sont prêts à ce qu'on retravaille des fois, qu'on puisse changer des mots. Puis comme justement j'ai l'habitude d'écrire des chansons, je suis capable de leur proposer des fois une phrase ou un mot ou avec un certain nombre de syllabes qui cadrent bien pour leur dire si tu as une autre idée, ça me prendrait quelque chose dans ce genre-là. Puis des fois, c'est pas rare qu'ils vont dire « Ah, ben ce que tu proposes va très bien, fait qu'on garde ça. » Puis des fois, ben c'est ça, ils vont retravailler jusqu'à temps qu'on trouve ce qui nous plaît. Mais c'est sûr que si je faisais affaire avec des auteurs qui étaient plus arrêtés puis qui disaient « C'est ça le texte, puis tu touches pas une virgule
»,
ça fonctionnerait pas. Puis c'est probablement pour ça aussi le fait que ça fonctionne si bien, c'est que c'est tous des gens que je connais. Puis je pense qu'ils connaissent aussi mon passé musical, donc ils nous font confiance. Ils savent que si on propose quelque chose, un changement, tout ça, c'est probablement pour le mieux, puis que la chanson risque d'en sortir encore meilleure. Donc, c'est ça. Bref, je suis capable de chanter les mots des autres sans problème, mais avec une petite latitude pour pouvoir rejouer dedans un petit peu, remanier quand, au besoin.
Ben là, c'est intéressant parce que la deuxième pièce, c'est évident que c'est une femme qui chante avec toi.
OK, mais vous l'avez remarqué.
Oui, j'ai compris pourquoi la première tune, c'est que là, je ne m'attendais pas du tout à une voix. Avec le genre de musique, je m'attendais à une voix plus légère, alors que là, dans le fond, c'est une voix qui s'apparente plus, par exemple, sans comparer, là, mais plus dans l'école Marjo, je dirais.
OK, ben oui, Stéphanie, elle a une voix qui est capable de brasser. Hein, elle chante depuis longtemps, puis en plus des différents projets de composition, elle a de nombreuses années d'animation comme chansonnier, là, dans un duo de chansonniers, où elle va reprendre des chansons de Janis Joplin, puis différentes chanteuses qui chantent avec plus de guts.
Plus de chien, oui, c'est ça.
Plus de chien, donc elle est capable d'en avoir s'il faut, puis elle est capable d'y aller en douceur quand c'est le temps aussi. Donc oui, c'est peut-être ça qui a créé la
confusion, mais c'est parce que c'est vrai qu'elle a une voix. Moi, ce que je disais à Thibault, c'est que au départ, sa réflexion m'avait étonnée, mais en fait, moi, quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé avec les vidéos.
OK.
Donc, commençant avec les vidéos, ben, voyais, donc sa voix était moins... la trouvais belle, mais j'ai moins fait de...
oui, t'as moins fait cette association-là.
L'impact sur sa voix. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est-à-dire, maintenant, on peut refaire des scènes, on peut retourner jouer pour les autres et avec les autres. Et est-ce que le duo se continue? Est-ce que tu continues aussi? Est-ce que chacun de vous continue aussi un petit peu de son côté à faire des choses?
Oui. Ben nous, en fait, il faut dire qu'on n'a jamais arrêté. Donc, même pendant la pandémie, puis quand on n'avait pas le droit, on était chez nous, puis on faisait de la création, on a fait du studio, on a sorti donc deux mini-albums, EP1 et EP2,
oui,
à quelques 6 mois à peu près d'intervalle, peut-être un petit peu plus. Puis, on a fait des prestations pour plus virtuelles. On a fait différents spectacles qui étaient web diffusés. Ça a été un peu ça la mode quand on n'avait pas le choix. Mais maintenant que on peut recommencer à faire des spectacles, on a recommencé à en faire, puis avec les différents projets. Donc, Stéphanie est aussi membre des Marchands de mémoire avec moi, donc on pratique avec les Marchands de mémoire, on a fait plusieurs spectacles aussi. Donc, on pratique du pièce sur pièce, on pratique du Marchand de mémoire ensemble, puis on en pratique avec les autres musiciens, puis on va faire des spectacles aussi, puis on est en création au travers de ça. Puis là, ben pour l'été, on a déjà commencé à faire. Il y a eu différentes animations, entre autres dans notre coin, là en Estrie, des animations extérieures avec des plus petits publics.
Oui.
Mais il y en a plusieurs autres là, qui sont à venir là, dans les semaines, à venir au courant de l'été, en fait.
D'accord. Parce que sur le EP, on va passer que les chansons qui sont sur le EP2.
Ouais.
Et sur le EP1, il y avait aussi la chanson que je voulais sortir, c'était Le Déraillement.
Oui, Le Grand Déraillement.
Déraillement.
Qui est un texte de notre ami David Goudreau, ouais, que vous connaissez probablement,
oui.
qui est presque notre voisin, qui est dans le même quartier que nous.
On
se côtoie là, sur les scènes de l'Estrie depuis longtemps et maintenant du Québec, là, disons-le, parce que David il a une super carrière. Oui. Puis David, on lui a demandé une chanson écrite, on lui a demandé une chanson là, faite sur mesure pour nous. On lui a même donné des balises, puis il nous l'a écrite en peu de temps et vraiment en rencontrant toutes les demandes qu'on avait pour lui. Donc, il a fait quelque chose de rythmé, incisif, un peu plus engagé.
Ah ouais, mais c'est une super chanson.
Oui, ça a donné le grand déraillement qui a été le vidéoclip qu'on a fait pour le premier EP.
Oui.
Tandis que pour le deuxième EP, on a fait un vidéoclip avec la chanson « Étonne-toi pas ».
Oui.
Puis là, on travaille sur le troisième EP qu'on va, on va sûrement entrer en studio dans les mois à venir. Puis quand il sera sorti, là, on veut faire un sortir ça sous format physique. Parce que là, c'est seulement accessible numériquement, donc disponible sur toutes les plateformes numériques. Mais on veut avoir un support physique, donc possiblement un vinyle et peut-être même un CD aussi avec les chansons.
D'accord, donc les trois qui seraient regroupés, ce qui ferait une bonne, ouais, ce qui ferait une bonne presque
une
18
bonne galette,
chansons, une bonne, oui.
Il y a 6 chansons par, par mini-album, donc ça ferait un CD de 18 chansons. Sur le vinyle, malheureusement, on ne peut pas toutes les mettre parce que ça ne ralente pas tous. Il va falloir faire une sélection de peut-être une douzaine de chansons sur les 18, mais on choisira en fonction là, de proposer un voyage musical intéressant et qui coule.
Ben oui. Sur le EP2, même si je ne change pas la chanson que j'ai choisie, parce que moi, elle me parle, mais
oui.
quel est ton coup de cœur à toi?
Je t'avouerais que il y a deux choses. J'ai un coup de cœur particulier pour la chanson que tu vas faire jouer, qui est
Chant de tir. Ah, oui.
Parce que elle, ça a été ma plus belle surprise, en fait, sur l'album, parce qu'on l'a construite. Ça faisait un petit bout qu'on la jouait, puis on est habitué au son qu'on avait. Puis on a travaillé avec Mathieu Perrault, qui est un guitariste avec qui je travaille depuis des années. Puis lui, il a fait des pistes de guitare, puis il a rentré une piste de guitare baryton qui amène plus de gras, puis qui amène un autre son.
Oui.
Puis la construction de la chanson, elle s'est un petit peu faite en studio, un peu plus que les autres. Puis ça a donné un résultat qui a été... ça a été une heureuse surprise. Ça a été comme mon coup de cœur en frais de surprise, disons-le comme ça.
Bon, mais alors, je suis contente parce que moi, elle m'a touchée beaucoup.
Oui, puis c'est un beau texte de Mélanie Noël, oui. Une auteure oui. de notre région aussi. Puis, sinon, ben, j'ai un coup de cœur pour la pièce que vous venez de faire jouer, pièce B, qui est à la suite d'un spectacle qu'on a fait virtuel. Il y a un de nos amis qui est lui aussi auteur-compositeur. Qui nous a entendu en spectacle, puis ça y a inspiré un texte qui a écrit, lui voyait un duo gars-fille, puis nous l'a vraiment écrit spécialement pour nous, pour un duo, puis nous connaissant aussi dans notre démarche.
Ouais.
Donc il m'a refilé ce texte-là, puis ça a donné la chanson pièce B.
Ah ben écoute, alors ça tombe trop bien, vraiment.
Ça tombe très bien, t'as fait une belle sélection.
Et c'est et après, donc... rien ne va passer. Enfin, il y a d'autres vidéos de prévues sur ce EP-là?
Pas de vidéoclip, du moins.
D'accord.
Peut-être qu'il y aura une vidéo là, de prestation. Ça sera à voir. Mais on se disait peut-être un vidéoclip par EP, étant donné que c'est quand même des coups, puis on autoproduit pas mal nos choses.
D'accord. Alors, comme on arrive à la fin de cette entrevue, on va te dire merci. On va te quitter avec Chant de tir, et puis il faut aller voir donc pièce sur pièce. Allez voir les clips vidéo, allez acheter les chansons avant que le gros album sorte.
Ben oui, puis on a un site internet qui est olivierbrousseau.com/PSP.
PSP, olivierbrousseau.com, ok.
Oui, donc puis on a une page Facebook aussi, pièce sur pièce, on met des vidéos, des dates de spectacle. Puis toutes nos dates de spectacle pour l'été aussi sont sur les sites web, là.
Eh bien, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup de nous avoir répondu, Olivier. Bonne soirée.
Ben merci à vous,
c'est
un plaisir.
À une prochaine fois.
Salutations à vos auditeurs.
On se quitte avec Chant de tir.
Parfait.
J'avais soif, je les ai fait pleurer. Je les ai fait couler. J'étais petite, je leur ai scié les jambes. J'étais perdue, je les ai fait marcher. Et
soudain, je t'ai aperçu. Je l'ai su, j'ai tout de suite voulu être plus grande, grandir d'un cran pour être dans le champ de tes souvenirs, de tes sourires.
Restez avec nous dans la prochaine demi-heure, Thibaut de Corta et bande dessinée, la chanson, on continue.
Vous écoutez Les Faramineux avec votre animatrice Arlette Farah.
Il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps, personne. beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, quitter devant dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu, doucement, quelque part. Quitter devant dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu, doucement, quelque part.
Du tout, un peu, beaucoup, 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 parce que ça va être avec Thibaut de Corta. Donc Thibaut, c'est à toi.
Ouais.
Alors, en tant que, moi, je t'ai connu en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Ça, tu chantais.
Ouais, ouais,
là,
ouais.
Là, t'as créé des nouvelles chansons.
Ouais, cet hiver, ouais.
Ce que je ne savais pas, parce que tu es venu comme chroniqueur pour les bandes dessinées. Donc, ouais. On va parler des bandes dessinées. Mais entre les discussions de bandes dessinées, on va écouter une ou deux chansons
ah
de
ben,
toi.
Ah ben, je veux bien, tiens.
Voilà. Comme ça, ça on va réunir, voilà. on va groupir toute la demi-heure pour toi.
Alors, écoute, j'ai amené deux bouquins aujourd'hui, en fait. Le premier, c'est Léonard Cohen sur un fil de Philippe Girard. Et le second, c'est The Plot... The Secret Story of the Protocols of the Elders of Zion. Alors ça, c'est un livre de Will Eisner, mais je vais d'abord, je mets ça de côté.
Commence d'abord par Leonard Cohen.
Oui. Alors Leonard Cohen, en partant, il faut le dire, c'est extraordinaire. Moi, je ne connaissais pas personnellement Philippe Girard, mais c'était un ami Facebook. Comment je suis tombé là-dessus? Je ne sais même pas, en fait, comment je suis tombé là-dessus. Je ne m'en rappelle plus. Mais je sais que quand j'ai vu qu'il sortait ça, tout de suite, ça m'a attiré.
Oui.
En ne sachant pas ce que j'allais découvrir à l'intérieur. Et donc, on parlait comme ça, puis il me dit... parce que je vais au magasin, et la première édition était épuisée. Et là, je fais mon grognon sur Facebook en rigolant, puis je dis « Ah! J'ai raté la première édition, mais j'ai acheté la deuxième, j'ai réservé la deuxième. » Fait que là, il m'écrit, Philippe, il me dit « Thibaut, si tu veux, il dit moi, j'ai la première édition, je te l'échange contre la tienne. » Puis je te fais une petite dédicace. Il m'a fait une superbe dédicace.
Cool.
Extraordinaire, oui. Et alors, ce livre, donc, je l'ai dit, il est extraordinaire pour une raison, entre autres, c'est que, d'abord, son dessin est assez minimaliste, c'est assez économe. Je veux dire, je ne sais pas si tu l'as regardé pendant que j'en parle.
Oui, je vais regarder.
Et en fait, le tour de force de Philippe, c'est qu'il s'est effacé devant son sujet. C'est-à-dire que le dessin, non seulement ne dérange pas, ne fait pas obstruction à Leonard Cohen, mais carrément, il s'est humblement mis derrière son sujet, ce qui fait qu'on a l'impression quasiment de pouvoir serrer la main à Leonard Cohen. C'est assez extraordinaire. Et je dois dire aussi que moi, je n'étais pas un grand fan de Leonard Cohen. J'ai découvert sur le tard. Bon, parce que à tort, je me disais, ouais, mais c'est pour les femmes, tout ça. Je chante la pomme et tout ça.
Peut-être parce que moi, je l'étais fan.
Mais je sais que toutes les femmes que je connais l'aiment. Mais toujours est-il que j'ai révisé mon jugement parce qu'en fait, j'avais commencé déjà parce que j'ai chanté une traduction d'une amie là, sur une chanson de Cohen qui n'est pas sortie pour l'instant. Donc, j'ai un peu pénétré l'univers de Cohen, mais sans plus. Mais avec ce livre-là, ça donne envie d'en savoir plus parce que on suit Cohen et on découvre en fait quelqu'un. Je ne sais pas s'il était sympathique, mais je pense que oui. Mais on le découvre au travers d'autres personnes. Comme par exemple, au début, il y a Armand Vaillancourt. Parce qu'il faut savoir que, je ne sais plus si c'est Marianne ou... je pense que c'est Marianne qui était d'abord avec Armand Vaillancourt. Elle l'a quitté et éventuellement, elle a rencontré Leonard Cohen. Oui. Je crois que ça a été une blonde platonique pour Cohen. Mais enfin, alors donc, il y a plein d'anecdotes là-dedans qui sont véridiques parce qu'il a fait beaucoup de recherches, Philippe, concernant donc Leonard. Et il y a des bouts assez amusants. Entre autres, Phil Spector qui a réalisé un de ses albums, dont d'ailleurs Cohen n'était pas satisfait. Alors, il y a une anecdote où on voit qu'il est séquestré par Phil Spector quasiment au bout d'un pistolet toute une nuit. pendant que Phil Spector se défonce sur la musique et tout ça, il y a un autre moment où on voit Nico des Velvet Underground et on découvre que c'est un personnage très peu sympathique, en fait, cette Nico. Et en fait, c'est Andy Warhol qui avait pas forcé, mais enfin, qui avait lourdement insisté auprès de Lou Reed pour qu'elle devienne égérie, donc, de Velvet Underground.
Excuse-moi, mais parce que je suis en train de feuilleter en même temps, puis je tombe sur le paquet là où il est. Que d'admirateurs, il est entouré de lettres. Puis là, il lit « Cher Leonard Cohen, vous n'êtes qu'une superbe vermine. »
Ah oui.
Il réfléchit, d'une superbe vermine. Oui, voilà ce que je suis. J'adore.
Ouais, parce qu'en fait, c'est un dépressif. Hein. Et moi, je le prends là-dedans. Il paraît que c'était connu, mais enfin, c'est un gars qui consommait pas mal.
Oui. Aussi.
Ouais.
Là, d'ailleurs, tiens, tu parles de consommer, puis on voit ses yeux.
Ouais. Et si ça n'avait pas été de cette fraude importante vers la fin de sa vie, il ne serait pas revenu à la musique, je pense. Il avait décidé de devenir zen dans le bouddhisme et tout ça.
Oui,
et ce qui l'a forcé à revenir, c'est parce qu'il s'est fait voler, finalement. Ouais. Alors, donc, cet ouvrage, non seulement je le recommande chaudement, mais voilà. mais je le recommande chaudement. Et alors,
ah non, mais ça me donne... Alors, je vais t'écouter,
et demain,
je vais le fermer.
Demain,
parce que
le 10 juillet,
oui?
Il y a une signature, une dédicace à la librairie Planète BD.
Ah, cool!
De 14h à 16h. Ça, la Planète BD, c'est 4077 rue Saint-Denis. Si je ne m'abuse, c'est entre Rachel et Dulte. Et une dernière chose sur Philippe, c'est qu'il est né à Québec en 1971. Donc, c'est un petit jeuneau. c'est une blague. Alors, non, fantastique. Courez acheter ce livre.
Et,
alors,
et puis, la couverture est très... J'adore!
Et ce qui est un exploit, c'est qu'on lui a permis de faire ce livre-là, parce que quand même, Cohen, c'est une légende.
Oui.
Et je suis vraiment impressionné qu'il ait réussi à faire ça, que ça a été cautionné et que ça soit sorti. Et ce qui est trop fort, c'est qu'il a voulu...
impressionné qu'on l'ait fait en bande dessinée?
Ouais, que ça a été accepté, que ce soit lui qui l'ait fait, que ça a été accepté. Et ce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, c'est qu'il l'avait proposé à une maison d'édition ici, à La Mode, à Montréal, qui l'a refusé. Eh bien, lui, il est allé voir Casterman, qui, évidemment, l'ont accepté. Parce que, alors là, vu qu'il est distribué par Casterman, il a une diffusion européenne, évidemment, complète. Ouais. Et là, il vient d'être traduit en anglais, je pense.
Ah oui?
Donc, ce livre, longue vie à ce livre.
Ben oui, tout à fait. Moi, je trouve ça très intéressant. Alors, avant qu'on parle du deuxième et qu'on parte, il nous reste deux minutes avant, je voudrais qu'on parle un petit peu musique.
Ah oui?
Quelle est la chanson qu'on va entendre et
ça s'appelle,
comment elle est née?
Bon, alors, ça s'appelle... C'est une chanson que j'ai écrite il y a 20 ans. Mais
d'accord.
Moi, je suis brouillon et j'ai aucun détachement par rapport à ce que je fais. Alors, les trois dernières années, avec mes copains, on faisait du Gainsbourg.
Oui.
Et puis, un jour, je leur ai fait écouter une maquette de ça. Puis, ils m'ont dit, on devrait la faire, celle-là. Puis là, c'est Alexandre, le bassiste, qui m'a poussé dans le dos que je sorte mes compos. Et il m'a fait un peu travailler, si tu veux. Et ça a donné... On a enregistré, en fait, cet hiver... cinq chansons. Il y en a une qui n'est pas là-dedans, mais qu'on a enregistrée en faisant croire qu'on était dans des endroits différents, tu sais, avec quatre écrans.
Ah oui?
Ouais. Celle-là, elle n'existe que sous cette forme-là, un vidéo. Mais ces quatre-là, donc, il y en a une en anglais, mais la première qu'on va entendre, c'est Comme un chien, donc c'est un texte un peu introspectif, mais tu vas voir en l'écoutant.
On va l'écouter, et puis on écoutera après la deuxième en anglais, parce que tu as une histoire aussi dessus
absolument.
À nous raconter.
Oui.
Donc, avant qu'on attaque la deuxième BD, donc maintenant, ça y est, tu t'es réconcilié avec Leonard Cohen, tu fais partie de...
Non, pas encore. moi, je suis très lent, il faut savoir. Je suis très, très, très lent. Et en fait, j'ai besoin d'être lent.
D'accord.
C'est comme ça que j'intègre les choses. Sinon, ça rebondit. Ping, ping.
Alors, prends ton temps.
Ouais.
Prends ton temps, on en reparlera la prochaine fois. Alors, on écoute ta chanson.
Le chien, c'est gentil, quand même temps, c'est méchant. Fidèle, comme un chien, je me retiens pour mieux marquer mon territoire. Comme
rien coin. Comme un chien, j'aboie. Comme un chien, je suis fidèle. Sauf que moi, j'y repense.
J'aime beaucoup.
Ben merci, c'est gentil.
En plus, comme je te le disais tout à l'heure, je trouve que tu as encore plus la voix gainsbourgienne que quand tu chantes Gainsbourg. C'est incroyable et c'est tout à fait le genre de texte qu'on aurait pu lui mettre en bouche.
Ouais, c'est dans sa aussi. Famille, c'est vrai.
C'est dans sa famille, c'est bien. En tout cas, ça débute bien.
Ben,
voilà.
Merci. Alors écoute, le deuxième livre dont je parle, c'est donc moi, je l'ai lu en français. En fait, celui-là, il a une histoire, d'ailleurs. C'est que je l'ai en français, donc, mais je voulais que ma copine le lise. Et elle parle français, mais enfin, elle est plus...
anglophone.
Ouais, mais elle est bulgare, en fait, tu sais, mais bon, elle a été à l'école en anglais. Bon. Alors, j'ai acheté The Plot, The Secret Story of the Protocols of the Elder of Zion. Et ça parle, ce livre... En gros, l'histoire, c'est que à la fin du 19e siècle, il y a... Un mec qui s'appelle Joly, en France, qui écrit des pamphlets anti-royalistes.
D'accord.
Il se fout de la gueule, je ne me rappelle plus si c'est Charles ou enfin le roi de l'époque. Là. Alors, dans les années... C'est avant la Commune, je pense. Il y a eu un retour de la royauté à un moment donné. Bon. Enfin, c'est plus ou moins important
donc,
pour lui.
Il doit se faire poursuivre.
Il a été en prison quelques fois. Mais... Parallèlement, en Russie... Il y a le tsar qui est un peu inquiet parce que ça commence à chauffer. Et il cherche un bouc émissaire pour accuser... En fait, il veut accuser les Juifs de complot, mais il ne sait pas comment faire. Et là, il y a un de ses employés qui est en disgrâce là, en France, mais il fait appel à lui parce que cet employé-là était quelqu'un qui faisait des faux.
D'accord.
Et là, il demande à ce gars-là, il dit « Écoute, il faut que tu me pondes un texte qui prouverait que les Juifs fomentent un complot contre moi. » Et lui, donc, il découvre un livre de Joly. Joly avait fait un truc qui s'appelait... Tu vois, en anglais, je ne suis pas assez fortiche pour le... Enfin, c'était un livre qui parlait de... Je pense que c'était Montesquieu et... Machiavel, mais je suis plus certain. C'était une satire encore contre le roi.
Sur la royauté.
Ouais. Et le faussaire, donc russe, est tombé sur ce livre-là puis il a dit mais j'ai quelques mots à changer et ça devient le protocole des sages de Sion qui serait la preuve que les Juifs complotent au niveau international. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un congrès juif au début du 20e siècle, je pense, mais qui n'était pas du tout un complot international. C'était un congrès, je pense, que concernant Israël, la création éventuelle d'Israël. Et donc, lui, il a mélangé tout ça et il a ramené ça au tsar. Il était vachement content. Et ce livre-là, dont je te parle, qui est Le Faux, est encore aujourd'hui un best-seller au Moyen-Orient. Et pas juste au Moyen-Orient, il y a des traductions en Amérique du Sud, un peu partout. Et pourtant, ça a été prouvé au moins 4 fois au 20e siècle que c'est un faux. Et c'est ce que Will Eisner nous raconte, en fait, dans ce livre. Et c'est pour comprendre le sérieux du livre, c'est préfacé par Umberto Eco.
Oh là!
Oui, alors je pense que c'est une bonne question.
Monsieur, ben oui.
Et qui est Will Eisner? Will Eisner, c'est un juif américain d'origine hongroise, juif hongroise par son père et roumaine par sa mère. Il est né en 1917, exactement le 6 mars 1917. Il a commencé très jeune. C'est considéré comme un des pères. En fait, c'est lui qui a inventé le terme roman graphique dans les années 70. Parce qu'avant, on parlait uniquement de bande dessinée. Bien que moi, j'appelle toujours ça de la bande dessinée. Là. Mais bon, parce que la forme du roman graphique, c'est un peu plus adulte, c'est un peu plus sérieux.
Oui.
Mais lui, son point fort, en fait, c'est un héros, un anti-héros, en fait, qui est un policier revenu des morts, supposément, qui s'appelait The Spirit.
Alors,
qui était accoutré comme un détective, mais avec un petit masque noir, un genre de playboy. Et ça a duré 30-40 ans, là, ce truc-là. Et il l'a éventuellement abandonné pour se lancer donc dans des romans graphiques. Alors, ce qui l'intéresse beaucoup, lui, c'est la condition juive, en fait, en général, les préjugés et tout ça. Entre autres, il a revisité Dickens, parce que dans Dickens, il y a un personnage qui s'appelle Fagin le Juif, qui est un genre de méchant à l'origine, qui exploite des enfants de 10 ans, tout ça, pour aller voler, puis qui ramène à lui. Et lui, il a regardé
ça. Je suis en train de réfléchir, mais je le vois pas, ce personnage.
C'est Oliver
bon.
Twist, non?
Oui.
Les 15?
Oui.
Je pense, hein, bon. Alors, il y a ce personnage de juif rétard. Parce qu'à l'époque, en Europe, l'antisémitisme, c'était courant, il faut le dire. Même si c'est là encore aujourd'hui, mais moins visible.
De façon plus voyante, oui.
Et toujours est-il que, donc, lui, il a revisité ce personnage-là pour le présenter sur un autre jour, en fait. Toujours les mêmes actions, sauf que ce qu'il dit, lui, c'est que si ce gars-là s'était pas occupé de ses enfants-là, il serait mort dans la misère. Parce que ça se passe fin 19e, début 20e, à Londres, où il y a une extrême pauvreté. Ce sont les enfants laissés à eux-mêmes, les orphelins. Donc, dans le fond, lui, il renverse un peu la situation. Et ça, c'est très intéressant.
Disons que quelque part, il leur a un peu sauvé la vie, sinon il pouvait mourir sur les trottoirs, c'est
ouais.
ça?
Ce qu'il dit en gros, c'est que, enfin, il ne dit pas directement, mais ce que tu entends, c'est qu'en effet, l'Angleterre était assez antisémite.
Très...
Et pareil, comme très pauvre, et pareil comme la France, d'ailleurs. Les familles bourgeoises catholiques françaises, sans être forcément antisémites à tout craint, là, mais il y a quand même culturellement un préjugé qui traîne depuis des siècles. Hein,
il faisait que non.
Oui, voilà, c'est ça.
Recule-toi de chez moi.
Tu sais, quand tu penses qu'à une époque, les Juifs, fallait qu'ils aillent le vendredi se mettre à genoux devant l'église pour s'excuser d'avoir vendu le Christ, d'avoir trahi le Christ.
Ah bon?
T'as jamais entendu ça, hein?
Jamais.
Il y a toutes sortes de trucs comme ça, là, pas possible, mais enfin bref. Alors voilà, c'était pour les bouquins. Ah oui, non, mais parce que voilà, ce livre-là, je l'ai acheté sur Amazon, je sais. Mais parce que je cherchais...
Amazon fait travailler les petites boîtes aussi.
Ouais, enfin bon...
Ouais, on va dire ça comme ça.
Ouais, et alors, j'avais pas vu dans l'annonce que c'était un livre usagé. Alors, quand je l'ai reçu, j'étais pas content. Puis finalement, bon, ben, c'est correct, parce que c'est l'édition originale de 2005, l'année de la mort, d'ailleurs, de Will Eisner. Et donc, il a travaillé là-dessus jusqu'à la fin de sa vie, en fait.
D'accord.
Et c'est ça. Donc, je suis content d'avoir la première édition. Puis ça change rien à la qualité du récit. Tiens, je vais te montrer le bouquin, si tu veux. C'est extraordinaire. Will Eisner, c'était vraiment...
Les deux m'ont apporté. Mais dans la dernière minute qui me reste avant qu'on t'entende de nouveau, est-ce que tu veux nous parler de la chanson qu'on va entendre en anglais?
Alors, c'est... Comme je te dis, moi, je suis très lent, je suis très bordel aussi. Et surtout, j'ai aucun détachement face à ce que je fais. Et donc, j'avais noté il y a 10 ans une phrase, une citation de Jack Layton qui m'avait beaucoup impressionné. Je m'étais dit, un jour, je ferais une chanson avec ça. Puis je l'avais mis de côté. Et puis, cet hiver, je fais entendre à Alexandre et à Bruno des petites mélodies que j'ai en boîte. Là, tu sais, que je...
oui.
Et il y a cette mélodie qui sort, et Alexandre il me dit, « Mais super, cette mélodie. » Je dis, « Oui, mais j'ai juste le début, « Under the tree », par là-dessus. Puis là, j'ai flashé, je me suis dit, « Mais c'est là que va la citation de Jack Layton dans la partie B. » Et une fois que j'ai trouvé ça, ça a tout déboulé. Et alors, on a enregistré la chanson, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai un doute. Je me dis, « Mais une citation, est-ce qu'il y a des droits d'auteur là-dessus, tu sais? » Fait que je fais ni une ni deux, j'écris à Madame Charles, la femme de Jack Layton, et je lui demande, je dis voilà la chanson, est-ce que vous me permettez de me servir de la citation de Jack Layton? Et elle me répond une demi-heure après, you may use it.
Ah bah écoute, c'est fantastique, alors musique. Voilà. Et tu vas faire un EP avec ça, tu
vois? Ouais.
D'accord.
Là, tu vois, on va entrer en studio pour enregistrer une cinquième chanson. Et on va faire un mini EP.
Ben écoute,
ouais.
Reviens-nous quand c'est fait.
Ouais, d'accord.
Reviens-moi, en tout cas, dis-le-moi. Ben écoute, Thibaut, j'ai envie de te dire merci beaucoup d'avoir été là ce soir.
Ouais, merci de l'invitation.
Et puis de nous faire aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, moi j'ai déjà envie que la journée soit finie.
Ouais, donc, ouais, écoute,
oui, c'est vrai.
Mais quand il fait chaud, les grosses semaines, là où il y a des tout, on perd. Surtout ici, on ne voit pas la lumière du jour.
Moi, quand je m'en vais à midi, c'est fini. C'est à 1h, c'est fini. Ma journée est terminée. Mais elle n'est pas terminée pour tout le monde. Donc, merci. Reviens une prochaine fois. Et
puis,
avec grand plaisir, merci. Parce que, comme je l'ai déjà dit une fois dans une autre émission, c'est grâce à toi que j'ai retrouvé le goût des bandes dessinées, Thibaut.
Ben, écoute,
quand tu es venu faire une chronique régulière là-dessus, c'est tu m'as expliqué et montré des choses qui m'ont absolument fasciné, que j'imaginais même pas dans les bandes dessinées.
Ça fait plaisir.
Voilà, donc merci à Olivier Brousseau aussi, et puis donc le duo Folk pièce sur pièce, si vous voulez aller voir sur leur site. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis, et puis passez un excellent week-end, et on se retrouve la semaine prochaine, dès lundi. Merci. Au revoir, merci Maurice Bolduc. À bientôt.